21h à Nouakchott et 22h à Béni. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Après le bulletin d'information, nous évoquerons le trafic d'enfants en Afrique de l'Ouest, après l'interception d'un camion de 22 adolescents qui devait être employé dans des mines d'or au Sénégal. Nous serons en Mauritanie pour notre dossier.
Que ce soit des négro-africains, que ce soit des wolofs, que ce soit des soninkés, que ce soit des poulards, que ce soit des arabes, ils sont tous esclavagistes dans leur éducation de base. Parce qu'ils sont des féodaux, des nobles, sont des forgerons ou sont des griots, n'est-ce pas, ou des cordonniers ou des esclaves. Alors c'est ça, voilà notre société.
Nous revenons sur la mise en place de la feuille de route pour l'éradication de l'esclavage en Mauritanie. Selon les ONG locales, c'est toute la société qui doit se remettre en question. Enfin, un petit détour par le Nigeria où les pénuries d'essence provoquent l'augmentation du carburant. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Bion à ce microphone. Les autorités burundaises ont suspendu pour 4 mois l'un des partis d'opposition, le Mouvement pour la solidarité et la démocratie, MSD. Le leader du parti, Alexis Sindouidje, et 71 militants ont été inculpés la semaine dernière d'insurrection en rapport avec les incidents survenus le 8 mars à la permanence du MSD à Bujumbura. La réaction de Maître François Niyamuma, secrétaire général du MSD.
Il prétexte que... On a fait de la rébellion, qu'on a fait des troubles à la permanence, etc. Personnellement, je ne vais pas m'y étendre parce que tout le monde est témoin, que ce soit la communauté internationale, les médias et la société civile, que les infractions qui sont reprochées au MSD ne sont pas fondées. En plus que cette mesure, elle est prise quand on compare aux organisations qui sont proches du pouvoir, qui commettent des crimes et qui restent impunis. Bref, pour nous, ce sont des prétextes. Mais en ce qui nous concerne, nous avons demandé à nos membres de rester calmes, de ne pas s'en faire. Nous allons travailler autrement en attendant et nous avons demandé à tous nos militants de respecter cette mesure, pas vraiment respecter, de s'incliner devant cette mesure pour ne pas donner de prétexte à d'autres mesures.
Maître François Niyamuma, secrétaire général du MSD, parti d'opposition au Burundi. En République centrafricaine, de nouvelles violences ont été signalées hier à Bangui. Au moins 2 personnes ont été tuées. 8 miliciens anti-Balaka ont été arrêtés par des soldats burundais de la MISCA. Les 8 miliciens ont été arrêtés alors qu'ils menaient une opération de braquage en plein jour dans une villa de la cité Corniche dans le premier arrondissement de Bangui. Alertés, les militaires burundais de la force africaine se sont rapidement rendus sur les lieux et ont échangé quelques tirs avec les malfrats avant de les maîtriser. Attentat à la voiture piégée à Benghazi, dans l'est de la Libye. L'explosion s'est produite près d'une quinzaine, tuant au moins 5 militaires. Les sources militaires et hospitalières comptent aussi une dizaine de blessés. Depuis la chute de Muammar Kadhafi, la région de Benghazi, bastion de la révolution, est le théâtre d'une vague série d'assassinats visant des policiers et des militaires. La marine américaine a saisi le Morning Glory, c'est ce qu'annonce le Pentagone. Le pétrolier transportant du brut libyen illégalement vendu par des rebelles a été arraisonné hier soir au large de Chypre, dans la mer de Méditerranée. L'arraisonnement du Morning Glory avait été demandé par le gouvernement libyen et chypriote, puis approuvé par le président américain Barack Obama.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Ukraine, les États-Unis ont décrété des sanctions contre 11 hauts responsables russes et ukrainiens. L'administration Obama a annoncé les sanctions ce lundi, suivant cela l'Union européenne qui a adopté des sanctions contre 21 personnalités ukrainiennes et russes jugées responsables de l'annexion de la Crimée par la Russie. Ces décisions font suite au vote en Crimée pour le rattachement de cette région à la Russie. Toujours pas de traces du Boeing 777 de Malaysia Airlines disparu le 8 mars. On pense désormais que l'avion transportant 239 personnes a été détourné. Le président américain Barack Obama a exhorté le président palestinien Mahmoud Abbas à prendre des décisions difficiles et des risques pour la paix avec Israël. Les deux dirigeants se sont rencontrés à la Maison-Blanche ce lundi pour discuter du processus de paix au point mort au Moyen-Orient. La réunion de Washington intervient alors qu'approche la date butoir du 29 avril fixée par Washington pour que les Palestiniens et Israéliens parviennent à un accord cadre sur les négociations de paix. Des milliers de Palestiniens sont descendus dans la rue dans les principales villes de Cisjordanie ce lundi pour soutenir la visite de Abbas aux États-Unis. On retrouve Sahel Plus maintenant.
Retour. retour à la partie magazine de Sahel Plus. Vendredi dernier, un camion transportant 22 enfants mineurs en provenance de Guinée-Conakry a été arrêté au Sénégal. De jeunes adolescents qui devaient être conduits sur des sites d'exploitation minière pour y travailler. Cette arrestation pose la question du trafic d'enfants en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement au Sénégal. Selon Yves-Olivier Kassoka, chargé de la protection de l'enfance pour l'UNICEF à Dakar, le trafic d'enfants gangrène toute la sous-région.
Globalement, oui, si on raisonne en termes de Sénégal seulement, on ne finira pas par comprendre un peu tout ce qui est en train de se passer. Parce qu'en réalité, le Sénégal, comme on le dit, il est frontalier à un certain nombre de pays. Le Mali, la République de Guinée, la Guinée-Bissau et bon, la Gambie qui est dans le Sénégal. Il faut dire qu'il y a une tradition de mouvement de population qui est notée entre ces différents pays. Cela est facilité très souvent par des réseaux, des relations de parenté qui existeraient entre les populations de ces différents pays. Mais aussi, cela aussi est dû au contexte de crise en général. C'est souvent des populations qui migrent à la recherche de terres exploitables ou à la recherche ils ont de produits à exploiter, à vendre ou à la recherche de marchés porteurs. Pour ces pays, le Sénégal, globalement, constitue une terre propice à tout ce qui est lié aux menus travaux de la rue, à tout ce qui est lié aux gains par l'aumône, et ce qui fait que la mendicité augmente. Il y a aussi le fait que la zone au sud-est du Sénégal est une zone minière, aurifère, où il y a beaucoup de tentations et on note beaucoup de populations qui se déplacent dans ces zones-là. Parfois aussi pour souvent des stratégies, disons, de survie. Parce que étant dans des zones arides, des zones où il ne pleut plus assez, où les terres arables se raréfient, donc certains préfèrent migrer vers les centres urbains, etc., pour des raisons économiques.
Donc pour vous, ce n'est pas forcément toujours un trafic d'enfants.
Oui, à l'origine, ça peut ne pas consister en un trafic d'enfants, mais à terme, ça peut, disons, revêtir des aspects de trafic, parce qu'en réalité, les enfants qui sont mis dans des situations de travail, diverses sortes de travail, hein, toutes les pires formes de travail, des formes de mendicité, des formes de parfois d'exploitation sexuelle, sont amenés à contribuer aux charges familiales, soit la famille est au village ou la famille est dans un pays limitrophe. Donc, au bout du compte, ça se retourne comme étant un trafic.
Pierre-Olivier Kassoka, chargé de la protection de l'enfance pour l'UNICEF à Dakar. Vous écoutez Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique, 102.4 FM à Ouagadougou. Seconde partie de notre dossier consacré à la Mauritanie aujourd'hui. Le gouvernement mauritanien a adopté le 6 mars dernier une feuille de route historique portant sur l'éradication des pratiques de l'esclavage, suivant les recommandations de Gulnara Shahinyan, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l'esclavage. Que prévoit cette feuille de route? Quelles sont les réactions des ONG mauritaniennes de défense des droits humains? Reportage de notre correspondant Brahim Dia.
L'esclavage est aussi étroitement lié à la pauvreté. C'est pourquoi, il y a une année, il a été créé l'Agence nationale Tadamoun, chargée de la lutte contre les séquelles de l'esclavage, chargée de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté. Cette agence a, entre autres objectifs, de favoriser la libération des victimes de pratiques esclavagistes par des activités génératrices de revenus. Boubacar Oulmessoud se félicite de la naissance de cette agence, mais la juge insuffisante.
Le problème n'est pas simplement de créer une agence, une institution, c'est de créer un outil qui soit susceptible de résoudre les problèmes qui sont posés. Les problèmes qui se posent à l'esclavage, ce n'est pas simplement la pauvreté, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'habitat, c'est tout ce qu'il y a pour faire une personne normale qui puisse vivre normalement et évoluer comme un citoyen à part entière.
Le président des SOS Esclaves, pour une lutte efficace contre les pratiques esclavagistes, demande aux juges de se libérer de leur lourdeur féodale.
Quand un magistrat n'est pas sûr que lui-même, dans sa famille, il n'a pas d'esclave, comment il peut condamner un autre esclavagiste? Donc pour nous, les magistrats, les procureurs, les juges doivent être des gens intègres et démocrates. Ils ne manquent pas de formation, mais ils manquent de conviction. Ils manquent de conviction, le plus souvent. Parce que ça, je le dis à cause de la pratique que j'ai moi-même assistée. Pourquoi depuis 5 ans, depuis 7 ans, à Nema, chaque fois le juge d'instruction libère des esclavagistes avérés. Des esclavagistes avérés, il les libère. Pourquoi? Parce que le garçon a récité un verset de Coran ou deux versets de Coran. Il dit, ah oui, mais son pseudo-maître, là, son présumé maître est un bienfaiteur. Et moi, je vais le libérer. Il le libère. Alors que l'esclavagiste a été pris par la gendarmerie avec les enfants, en brousse, ou avec leur maman, ou avec leur frère. Et ça veut dire que c'est un flagrant délit. Et que déjà, le procureur lui-même pouvait envoyer le monsieur en prison, puisque le crime est avéré. Non, mais on l'envoie devant un juge d'instruction parce qu'on va dire qu'on a fait son travail. Et quand le juge d'instruction libère, dit « Ah oui, moi j'ai fait mon travail, le juge est indépendant, mais j'ai fait appel. » Mais les appels qu'on a faits depuis ce temps-là, qui les a vidés? Tous les appels ne sont jamais examinés. Depuis 5 ans, aucun appel n'est examiné. Y compris l'appel d'Aboul Hassine. La seule jurisprudence qu'on a faite en 2011 pour contenter Gulnara quand il est venu en 2011, en 2012, pour dire qu'il y a enfin une jurisprudence. Ce monsieur-là, il a fait 6 mois ou 8 mois en prison sur 2 ans et il a été mis en liberté provisoire après le passage de cette dame.
L'esclavage en Mauritanie, c'est d'abord un problème de société. Boubacar Oul Mesoud, au-delà de l'effort législatif du gouvernement mauritanien, en appelle à un changement des mentalités.
Les gens sont concernés. La société mauritanienne, féodale, instruite, est concernée par l'esclavage, par la pratique de l'esclavage, parce qu'elle n'est pas propre par rapport à l'esclavage. Les Mauritaniens ne sont pas propres par rapport à l'esclavage. Leurs traditions, leurs coutumes sont des traditions esclavagistes, sont des traditions inégalitaires. Et c'est ça le problème d'ici. Donc ici, il faut que chacun de nous fasse son bilan et fasse sa révolution. Change, accepte de changer pour prendre en charge le problème tel qu'il doit être pris en charge. Que ce soit des négro-africains, que ce soit des wolofs, que ce soit des soninkés, que ce soit des poulards, que ce soit des arabes, ils sont tous esclavagistes dans leur éducation de base. Parce qu'ils sont des féodaux, des nobles, sont des forgerons ou sont des griots, n'est-ce pas? Ou des cordonniers, ou des esclaves. Alors, c'est ça, voilà notre société.
Global Slavery Index 2013 classe la Mauritanie comme pays à plus gros taux d'esclaves dans le monde. Environ 4% de la population serait en situation de servilité. Ce chiffre est une sous-estimation selon d'autres organisations. Brahim Dia, à Nouakchott, pour La Voix de l'Amérique.
Direction le Nigeria pour finir l'émission. Le Nigeria où la tension monte en raison d'une pénurie d'essence. Les automobilistes grognent et pour cause, le Nigeria, premier exportateur de pétrole en Afrique, fait face à une flambée des prix à la pompe. Le gouvernement accuse les distributeurs véreux d'être à l'origine des pénuries. Les explications de Jean-Roger Bion.
Acheter de l'essence au prix subventionné dans la ville de Benin City, dans le sud du Nigeria, relève de la gageure. Les clients sont obligés d'attendre des heures durant dans les files sous un soleil de plomb. Celui qui ne veut pas emprunter ce chemin de croix devra débourser 30% en plus pour se servir dans d'autres stations de Benin City ou acheter du carburant de moindre qualité sur le marché noir avec tous les risques. Pour les automobilistes, c'est moins le prix de l'essence que les conditions d'attente qui les fâchent. Ojo Odiasi.
Regardez-moi. Je transpire même maintenant. Avant de voir le carburant, on traverse un long moment de stress. C'est tout simplement ça. Voilà.
En dépit de la frustration, de la corruption ambiante et des VIP qu'on fait entrer par la porte arrière, la station reste calme. Tout le monde sait que la moindre altercation pourrait rapidement dégénérer. Le Nigeria est un grand producteur de pétrole, mais les Nigériens disent qu'ils ne voient pas les bénéfices de la rente pétrolière du pays. Pour en rajouter à ce qu'ils considèrent comme une imposture, le pays doit importer du carburant parce que ses 4 raffineries vétustes ne peuvent plus en produire assez. Le ministère nigérian du pétrole accuse certains distributeurs de carburant et des chauffeurs de camions-citernes de créer une pénurie artificielle pour faire monter les prix. Raymond Okoro, un professeur de sciences politiques à l'Université de Bénin, dit que la corruption à tous les niveaux est responsable de la pénurie. Il fait porter le chapeau au gouvernement.
En 10 ans, c'est le plus haut niveau de frustration. Ce n'est pas seulement la question de la pénurie de carburant qui a déclenché cette frustration. Il y a plusieurs autres facteurs socio-économiques. Le taux de chômage élevé, les pannes d'électricité constantes, l'insécurité et le sous-développement sont d'autres questions exaspérantes.
Si la pénurie de carburant perdure, elle pourrait compromettre, selon cet universitaire, les chances du président Goodluck Jonathan à la réélection en 2015. En 2012, des manifestations ont éclaté dans tout le pays lorsque le gouvernement nigérien a annulé la subvention nationale de carburant. Le prix du transport et de la nourriture avait doublé, puis triplé. L'indignation publique avait forcé le président Jonathan à rétablir partiellement les subventions.
Vous écoutez Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique, 102 FM à Bamako. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Michel Joseph. À la console, Audrius Rigus. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Lapiro de Manga, un musicien camerounais et artiste engagé qui avait dû s'exiler du Cameroun alors qu'il dénonçait le régime de Paul Biya et qu'il avait passé plusieurs années en prison. Rendez-vous demain à 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook et Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Cette chanson, je la dédie aux Camerounais qui sont tombés sous les balles juste parce qu'ils voulaient servir une opposition. Rien, mais dit beaucoup de choses. Que l'âme de ces Camerounais repose en paix.
wet problem. Daddy mama, daddy mama, no chawaki ye we. Daddy mama, daddy mama, no chawaki ye we. Fuck, 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 f